Chapitre 4. Tricia. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup d'espoir pour la cuisine. Si cette maison n'a pas été habitée depuis 3 ans qu'Adrienne Hale a disparu, comment pourrait-il y avoir de la nourriture dans le réfrigérateur? Le mieux que l'on puisse espérer, ce serait des boîtes de conserve à réchauffer. Le réfrigérateur fait au moins 2 fois la taille de celui minuscule que nous avons encastré dans notre cuisine à la maison. Ici, tout semble disproportionné par rapport à ce à quoi nous sommes habitués en ville. Cette cuisine pourrait contenir environ 10 fois la nôtre. Le docteur Adrienne Hale était-elle une bonne cuisinière? Elle me fait l'effet d'être le genre de femme capable de vous préparer un repas gastronomique en 2 coups de fouet. Ethan ouvre le réfrigérateur et passe en revue l'intérieur.
On peut se faire des sandwichs.
Vraiment? Je regarde par-dessus son épaule. Il y a une miche de pain et tout un tas de charcuterie. Je vois même un pot de mayonnaise. Mon estomac se retourne et j'ai presque envie de vomir. Depuis combien de temps ces aliments sont-ils là-dedans?
Tu ne me feras pas manger ça. C'est probablement périmé depuis des années.
Il sort un paquet de mortadelle.
Non, ça n'expire que dans une semaine. C'est Judy qui a dû l'acheter.
J'essaie d'imaginer Judy achetant un paquet de mortadelle pour l'une des maisons qu'elle fait visiter. Je n'arrive pas à me la figurer. Elle est plutôt du genre caviar et saumon fumé. Tu es sûre? Tu as vérifié l'année?
Oui, tiens, regarde.
Il me tend la mortadelle. En effet, la date est bien celle de l'année en cours, et dans une semaine. Je l'ouvre et la renifle. Elle ne sent pas le rance. La couleur paraît appétissante aussi.
Je nous prépare des sandwichs,
annonce Ethan. Il aligne une miche de pain, la mortadelle et un pot de mayonnaise sur le comptoir et s'attelle à la confection des sandwichs. Il aime cuisiner pour moi, c'est mignon. Non pas que je ne sois pas capable de faire un simple sandwich toute seule, mais c'est romantique, le plaisir qu'il prend à me choyer. Encore une chose que j'ai rapidement appris à aimer chez lui. J'espère juste que ses sentiments resteront les mêmes quand je lui aurai fait ma révélation. Je me sens mal chaque fois que j'y pense. Mais je ne dois pas le lui cacher plus longtemps. « Je peux faire quelque chose ?» je demande.
« Et si tu nous sortais un truc à boire ?»«
Oui, ça, je peux m'en charger. » Je passe de l'autre côté de la cuisine pour trouver 2 verres. Je vais les remplir avec de l'eau du robinet, je suis sûre qu'elle est potable. Mais aux abords de l'évier, quelque chose m'arrête net. C'est un verre juste à côté de la vasque, à moitié rempli d'eau. L'extérieur dégoulinant de condensation.
« Ethan ?»
j'appelle d'une voix tremblante.
« Oui ?»
Je déglutis, les yeux fixés sur le verre. « Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre dans cette maison. » Il lève la tête de la préparation des sandwichs, une tranche de mortadelle dans la main droite.
« Qu'est-ce que tu racontes ?»
Je recule un instant, comme si le verre risquait de m'étrangler.
« Il y a un récipient ici. » Quelqu'un l'a rempli récemment et a bu dedans. Probablement Judy.
S'il mentionne encore Judy, je lui balance mon poing dans la figure. Ce n'est pas à Judy, d'accord? Judy ne laisserait jamais un demi-verre d'eau sur le comptoir de la cuisine comme ça. Et dans ce cas, il y aurait du rouge à lèvres sur le bord. Il ne peut pas le contester. La marque de fabrique de Judy, c'est son rouge à lèvres rouge vif. Elle ne pourrait jamais boire dans un verre sans en laisser un peu dessus. Et il y a aussi l'empreinte que j'ai vue sur le sol. Je lui rappelle.
Probablement celle de Judy,
dit-il, même si c'est grotesque.
Ou la mienne.
Et la lumière qu'on a vue allumer à l'étage en arrivant. Il y a quelqu'un là-haut. Ethan fait la moue. Il regarde le verre d'eau de l'autre côté de la cuisine, puis l'escalier incurvé qui mène à l'étage.
Je ne sais pas, Tricia. S'il y avait quelqu'un, cette personne ne serait-elle pas descendue nous dire de foutre le camp de sa maison?
Là, il a raison. Peut-être qu'il ou elle n'est pas censé être là. Il ne balaie pas cette éventualité. Ses yeux sont maintenant rivés sur la cage d'escalier.
D'accord. Supposons que ce soit vrai. Qu'est-ce qu'on fait?
J'ai toujours mon sac en bandoulière. Je plonge la main à l'intérieur et sors mon téléphone. Toujours pas de réseau. Je pense qu'on devrait monter voir à l'étage. Ethan semble sur le point de protester, alors je me dépêche d'ajouter. On est coincé ici pour la nuit. Tu vas pouvoir dormir, toi, si tu penses qu'un inconnu rôde dans la maison?
Tu as raison,
convient-il finalement.
Je vais aller vérifier. Toi, reste ici.
Je secoue vigoureusement la tête.
Pas question, je viens avec toi. Ne me laisse pas seule ici. Là encore, il semble sur le point d'argumenter, mais se ravise. Il se frotte le menton du pouce pendant un moment, puis attrape quelque chose sur le comptoir de la cuisine. Il me faut un moment pour comprendre qu'il s'agit d'un bloc de couteau. La longue lame dentelée qu'Ethan en sort scintille à la lumière des plafonniers de la cuisine.
Mieux vaut être préparé, non ?
Je n'ai aucune objection à ce qu'il prenne un couteau. Je suis même tentée d'en attraper un moi-même. Nous traversons ensemble le salon et passons devant le portrait du docteur Adrien Hale. Je commence à détester ce tableau. Cette maison est déjà assez effrayante sans ces yeux verts qui me suivent partout. C'est un soulagement lorsque nous arrivons à l'escalier, loin de son regard aiguisé. Du moins, un soulagement jusqu'à ce que nous commencions l'ascension. J'ai l'impression de monter pendant une éternité, et la cage d'escalier est très sombre. Les marches sont abruptes, et toutes craquent sous notre poids, grincement qui se répercute dans toute la cage d'escalier. Je m'accroche d'une main à la rampe en bois ouvragé, et de l'autre, je cherche mon mari. Quand je trouve son bras, je m'y agrippe fermement. Je n'arrive pas à croire qu'il veuille vivre ici. Cet endroit ressemble à une maison hantée où nous serions obligés de passer la nuit pour gagner le droit à une sorte d'héritage ou quelque chose comme ça. Le pire, c'est quand on arrive au palier du premier, parce qu'il est évident que tout l'étage est complètement plongé dans le noir. On a pourtant vu une lumière allumée ici, non ? Je demande en promenant frénétiquement les yeux sur les portes, toutes plus sombres les unes que les autres. J'en suis sûre. C'était peut-être le reflet de la lune sur le carreau. Je le fusille du regard dans la faible lueur qui nous parvient par la fenêtre. La lune qui se reflétait sur la fenêtre d'une seule chambre ? Je sais pas quoi te dire, Tricia. Je ne vois personne ici, et toutes les lumières sont éteintes. On ne devrait pas vérifier les pièces ? Il reste silencieux un moment. Je ne sais pas s'il est effrayé ou agacé.
Très bien. Allons y jeter un coup d'œil.
Ethan allume la lumière dans le couloir. Toutes les ampoules sont grillées à l'exception d'une, mais ça suffit à rendre l'étage beaucoup moins effrayant. Il garde le couteau contre son flanc pendant que nous ouvrons chaque porte et allumons la lumière dans chaque pièce. D'après la description qu'en donne le site de Judy, il y a 6 chambres à l'étage et je ne partirai pas d'ici tant que nous n'aurons pas vérifié chacune d'entre elles. Première chambre, vide. Il en va de même pour les 2e, 3e et 4e chambres. Toutes sont complètement sombres et silencieuses. La lumière qu'allume Ethan nous permet de vérifier que personne ne se cache dans les coins. Chaque pièce est complètement vide.
« Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici, Tricia »,
dit-il en fermant la porte de la 4e chambre.
« On continue ?»
J'insiste entre mes dents. 5e chambre, vide. Il ne reste plus qu'une pièce. Toutes celles que nous avons vues jusqu'à présent étaient à peu près de la même taille et d'aspect plutôt impersonnel. Ce qui m'amène à penser que la dernière chambre doit être la principale. L'endroit où Adrien Hale a dormi toutes les nuits dans les mois et les années qui ont précédé sa disparition. Je m'accroche au bras d'Ethan pendant que nous dirigeons vers la dernière porte. Mon cœur bat si fort qu'il me fait mal à la poitrine.
Tricia, tes ongles.
Je relâche ma prise, juste un peu.
Désolée.
Je lui lacère probablement encore la peau avec mes ongles, mais il me laisse faire. Il abaisse la main qui ne tient pas le couteau sur la poignée de la porte. Et doucement, il la tourne.